c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et nous avons la visite de...
Gaëtan.
Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler du Brésil, du Mexique, et un sujet très intéressant que nous avons trouvé dans une revue de l'Amérique latine. Mais ça peut-être va être une surprise. Je laisse la parole à Béatrix pour nous parler du Brésil et de Bolsonaro.
Oui, c'est un extrait de l'article sur RFI. Bolsonaro face au juge pour un procès historique. C'est un procès historique au Brésil. L'ancien président Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État en 2022, après sa défaite face à l'actuel président de gauche Lula da Silva, s'est retrouvé mardi 10 juin pour la première fois face au juge. Devant la Cour suprême, l'ex-dirigeant d'extrême droite a nié toute velléité putschiste tout en admettant avoir réfléchi à des alternatives pour rester président. L'audition de l'ancien président brésilien était très attendue, mais sur le fond, elle n'a rien donné de spectaculaire. Bolsonaro est resté fidèle à sa ligne de défense. Sur un ton poli, il a nié toutes les accusations. Un coup d'État, c'est une chose abominable, a déclaré celui qui est accusé d'avoir conspiré avec de proches collaborateurs pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite. Brandissant un exemplaire de la Constitution de 1988, il a indiqué « Je ne suis jamais sorti du cadre de la Constitution », tout en admettant d'avoir réfléchi à des alternatives pour rester au pouvoir, mais toujours dans le cadre de la loi. Bolsonaro a aussi démenti avoir cherché à renverser le président Lula le 8 janvier 2023 lors des émeutes à Brasilia. Thank you.
Le Brésil et la musique. Nous allons rester au Brésil, mais maintenant on va parler de quelqu'un plutôt du point de vue positif. Et Lula, le président du Brésil, a accordé un entretien à un journaliste installé au Brésil, justement. Il connaît très bien la situation dans ce pays. Et nous allons vous livrer quelques extraits de cet entretien. Je laisse la parole à Béatrix.
Et le président Lula da Silva appelle à une nouvelle gouvernance mondiale. Dans un contexte international troublé et guerrier, le président brésilien reste fidèle à ses priorités, la défense de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Voici quelques extraits. Quel bilan tirez-vous des premiers mois de la présidence de Donald Trump ? Trump a été élu pour gouverner les États-Unis, pas pour gouverner le monde. Il a été choisi par une majorité de Nord-Américains, mais cela ne lui donne pas l'autorité pour s'immiscer dans les affaires des autres pays et ne pas respecter leur souveraineté, ni pour remettre en cause le multilatéralisme au risque de plonger le monde dans une pagaille généralisée. Qu'il s'occupe d'abord des États-Unis. Question. Trump a menacé de droits de douane de 100% les pays qui chercheraient à se détourner du dollar. Cela ne vous effraie-t-il pas ? La menace de Trump ne fait peur à personne. Nous agirons selon les intérêts de nos pays et nous nous battrons pour un commerce international plus juste. Il n'est pas question de demander l'autorisation des États-Unis pour choisir la monnaie que nous jugeons la plus appropriée pour nos échanges.
Rythme brésilien. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons finir cet entretien au président du Brésil, Lula da Silva.
Vous avez critiqué le gouvernement israélien à propos de la guerre à Gaza. Que peut faire la communauté internationale pour y mettre fin ? Il faut d'abord reconnaître la réalité. À Gaza, on n'assiste pas à un affrontement entre deux armées, mais à un massacre de civils par une force militaire très sophistiquée. Pour moi, c'est un génocide. Chaque frappe d'Israël, censée viser le Hamas, ne laisse derrière elle que des victimes civiles, femmes et enfants. C'est une honte pour l'humanité et tous les gouvernements. Cela doit cesser. Question. Le Brésil accueillera la COP 30 en novembre. Dans ce contexte troublé, difficile d'espérer des avances. Je reste optimiste, sinon, je vous le dis clairement, je ne l'organiserai pas. Je pense même que Trump viendra, comprenant que les États-Unis ne peuvent rester en dehors de l'accord de Paris, ni hors de la planète Terre. Le fait de l'organiser à Belém, en Amazonie, n'est pas un choix anodin. Il ne s'agit pas de faire du spectacle, mais de présenter au monde la forêt tropicale, ses habitants et les défis pour la préserver. Les pays riches d'industrialisation basée sur le gaz à effet de serre ont une dette historique envers le climat et doivent l'assumer.
Voilà donc pour cet entretien de Lula. Nous allons parler d'un autre pays et au sujet des armes. Les armes qui arrivent des États-Unis, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit d'un article paru dans le journal Le Monde. Le Mexique débouté de son action contre les armuriers nord-américains. Mexico veut faire reconnaître la responsabilité des industriels dans le trafic d'armes à partir des États-Unis qui permet d'équiper les gangs. Une décision de la Cour suprême des États-Unis en faveur de l'industrie de l'armement a été reçue comme un camouflet au Mexique. Les juges ont considéré que les fabricants d'armes bénéficient bien d'une immunité grâce à la loi adoptée en 2005 sur la protection du commerce légal des armes à feu. Les fabricants d'armes ne peuvent être poursuivis pour l'utilisation de leurs produits, aussi criminels soient-elles. Depuis 2021, le gouvernement mexicain mène une bataille judiciaire aux États-Unis pour tenter de freiner le trafic d'armes depuis les États-Unis vers son territoire, qui permet aux gangs criminels liés au narcotrafic de s'équiper. La Cour suprême a estimé que le Mexique n'avait pas suffisamment démontré que l'industrie d'armement encourageait le trafic illégal d'armes vers son territoire. Mexico avait mis en avant les stratégies délibérées de marketing de cette industrie pour plaire aux narcotrafiquants, utilisant symboles et images du Mexique, comme le revolver au nom du révolutionnaire mexicain Emilio Zapata. Les États-Unis ont reconnu pour la première fois que le problème n'est pas seulement le trafic de drogue vers leur territoire, mais aussi le trafic d'armes vers le Mexique, a estimé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Les États-Unis considèrent que les cartels mexicains sont des groupes terroristes. Qu'en est-il de ceux qui les arment?
Oui, on pourrait ajouter aussi ce qu'indique l'avocat des Mexicains. Il nous indique que la décision de la Cour suprême est bien sûr une déception qui représente donc de Jonathan Lowe, qui représente le Mexique dans ce litige. Elle a cependant, la Cour suprême, rejeté les arguments de l'industrie qui cherchait à obtenir une immunité pour ses pratiques commerciales par le biais d'une loi. La Cour a souligné que cette immunité n'est pas absolue, en particulier si le marketing contribue à la prolifération d'armes. Cet argument nous donne de l'espoir, dit Jonathan Lowe, pour continuer ce combat. folklore mexicain. N'est-ce pas, Béatrix? Alors, nous allons aborder un sujet peu connu ici en France, au sujet des Proche-Orient et l'Amérique latine. N'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit d'un article dans le magazine, qui est paru dans le magazine Espace Latinos, écrit par Jean-Jacques Kurlansky, que tu as interviewé une fois ici, Jean-Jacques Kurlansky. Donc, il s'agit de la crise ouverte au Proche-Orient le 7 octobre 2023 qui a percuté l'Amérique latine comme le reste du monde. Ces répercussions ont été en Amérique latine comme ailleurs de toute nature. Les opinions publiques comme gouvernement ont réagi et parfois pris des initiatives. Dans la majorité des cas, opinions comme gouvernement ont condamné les réponses israéliennes au meurtre de Hamas, parfois en termes d'une grande radicalité. Mais il a eu aussi des prises de position favorables au gouvernement de Jérusalem. Cette diversité d'attitudes interpelle. On l'oublie souvent, mais le Proche-Orient est présent en Amérique latine. Le feuilleté de vagues migrantes a sédimenté au fil du XXe siècle des couches venues du pourtour sud-méditerranéen. Il s'agit là d'un seuil commun. Les crises successives de l'Empire ottoman ont déversé en Amérique latine des milliers de détenteurs de passeports turcs. Turcs authentiques parfois, mais le plus souvent arabes, syriens et libanais, arabes palestiniens, arméniens, juifs. Le dénominateur commun des Turcs s'est fragmenté au fil du temps en arméniens, juifs, syro-libanais, palestiniens et turcs, pouvant être utilisés comme synonymes de tous. Chacun exprime à sa manière cette situation proche-orientale revisitée par les Amériques latines.
Oui, c'est intéressant de... Je sais que j'ai connu ça, parce que dans mes études au lycée au Chili, il y avait des camarades qui étaient palestiniens ou autres, mais on les appelait les Turcs, tous. Comme c'est indiqué, j'ai retrouvé ça après tant d'années. Exactement, c'était ça, vous voyez. Mais c'est curieux. C'est pour cela qu'on va passer à la musique. Nous parlons des Proche-Orient et l'Amérique latine, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui.
Et nous allons encore aborder ce sujet parce que c'est vrai qu'on découvre des choses très intéressantes.
Les strates ne sont pas exactement les mêmes d'un pays à l'autre. L'épaisseur diverse des arrivées selon les lieux oriente les esprits et les votes. Les Syriens libanais sont partout, mais en nombre plus grand au Brésil. Des Syro-Libanais ont même accédé à la présidence du pays d'accueil de leur famille en Argentine, en Équateur, au Guatemala. Les Arméniens ont fait souche pour l'essentiel en Argentine et en Uruguay. On trouve des Juifs séfarades et askénazes dans tous les pays. Mais la communauté la plus notable est celle d'Argentine. Le nord argentin avait été pressenti comme une terre possible d'ancrage diasporique. Ils sont dans l'attente devenus des gauchos juifs, juifs latino-américanisés. Les Palestiniens se sont installés au Chili, pays qui en reçu le plus au monde hors monde arabe. Un club de foot, Club Deportivo Palestino, témoigne de cette présence. Israël, Palestine se sont effectivement assez proches des latino-américains, en dépit de l'éloignement géographique. La composition des populations, fruit de mélanges divers, est majoritairement arabe, palestinienne au Chili, syro-libanaise ailleurs, avec quelques îlots arméniens. Mais au Brésil, le drapeau que l'on voit flotter sur les toits, à Rio, dans les temples pentecôtistes, est celui d'Israël.
Oui, c'est pour cela que je suis devenu un juif arabe, moi. Mais les choses ne sont pas aussi tranchées. Les États majoritairement condamnent Israël avec une intensité reflétant l'importance numérique, historique, sociale des communautés d'origine arabe. C'est particulièrement net pour le Chili, où vit une importante population d'ascendance palestinienne. Bolivie et Colombie, bien que n'ayant pas de communauté arabe notable, ont adopté des postures plus agressives par sympathie idéologique. Le Paraguay et surtout l'Argentine ont maintenu leurs relations avec Israël. Le nouveau président argentin, Milei, Javier Milei, a pris des postures publiques à plusieurs reprises favorables au gouvernement Netanyahou. Il est vrai que la population d'origine juive, la plus nombreuse d'Amérique latine, vit en Argentine. Mais il y a aussi, de la part du premier magistrat, Gaucho, un affichage ostentatoire volontaire, l'expression d'une sympathie pour un homologue d'extrême droite.
Thank you.
Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.